parfum tous tes par de la main fenêtre. Il est quand il parlait de rose et de commence. Je sais quand il parlait de rose et à ma fenêtre. Il est cette chanson là rappelle mes amours. Je ne sais plus très bien comment t'es le. Comment t'es-le, comment, je sais qu'on y parlait de rosé à ma fenêtre. Il est qu'on y parlait de rosé à ma fenêtre. Il est cette chanson-là, rappelle mes amours. Je ne sais plus très bien comment t'es-le.
dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut
essayer. Quand des gens ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise, et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans l'île, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonjour, bonjour. C'est le Canu Info du lundi et c'est un peu chaotique. C'est la reprise, c'est normal.
Toujours par une petite foire de voilà. Retour avec de belles compétences techniques.
Voilà, mais on est là. Donc aujourd'hui, on va vous parler à l'international d'un contre-hommage à Elisabeth II.
Ensuite, au national, on fera un sujet sur l'assurance chômage et la destruction des droits sociaux. Un sur les nouveaux meurtres de la police à Rennes et à Nice et un autre sujet sur la répression à l'éducation nationale.
Et au local, on parlera de la visite de Darmanin à la Guillotière avant de parler d'un procès qui aura lieu demain de camarades contre le bastion social.
Et tout de suite, on commence avec les traditionnels brèves.
Alors, petit test du jour. En brève, qui a dit « La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minima sociaux et revenus de substitution ?» Mais encore, « Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. » Réponse A, Ségolène Royal qui se prenait pour Sarkozy. Réponse B, François Ruffin en campagne dans la Somme. Réponse C, Fabien Roussel à la fête de l'UMA. Si vous avez trouvé la réponse, qui est donc la réponse C, c'est que vous avez suivi le buzz affligeant du week-end sur cette déclaration de Fabien Roussel à la fête de l'UMA. Mais les deux autres réponses ne sont pas si fausses non plus, puisque pendant la campagne présidentielle de 2007, Ségolène Royal avait déclaré ne pas être favorable à une société de l'assistanat et concevoir la gauche comme un projet de société de donnant-donnant. Sans compter Ruffin qui surfe sur quasiment la même vague que Roussel, de manière un peu moins explicite parfois, mais une belle vague un peu brune. En tout cas, pour la fin de l'assistanat, une seule solution, reprendre au capital tout ce qui doit à la collectivité, travailleur ou pas. En attendant, on ne sait pas si Roussel va bientôt prendre sa carte au RN, mais on se demande bien ce qu'il fout, même à la fête de l'UMA.
Et en parlant de vagues brunes, de tendances brunes, eh bien, on peut dire qu'on est bien en France, hein, puisque une nouvelle fois à Paris, une manifestation a été empêchée et interdite samedi dernier, donc le 10 septembre. Les Gilets jaunes lançaient un appel national, un nouvel appel national contre l'inflation, les prix qui s'envolent, les prix du carburant, etc. et les politiques antisociales. Mais la manifestation n'a pas pu avoir lieu pour la simple et bonne raison que les policiers étaient présents en force à peu près partout dans la capitale, qu'ils ont fait 103 interpellations, dont 93 pour le simple fait d'une participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations. Comme d'habitude, au moindre début de rassemblement d'attitude suspecte, eh bien, il y a eu des contrôles. Néanmoins, un groupe de femmes gilets jaunes a réussi à poser une banderole sur les Champs-Élysées où il était écrit « Les bourgeois nous traitent comme des chiens, il est temps de mordre ». La banderole n'a bien sûr pas tenu longtemps, mais c'est déjà ça. Et on continue avec...
International.
International.
Et on commence par un petit sujet sur Elisabeth II.
Oui, Elisabeth II, on s'est dit qu'un contre-hommage à cette brave dame serait pas trop dans tout ce ramassis d'éloges et de désinformations. Il suffit encore aujourd'hui d'allumer France Info ou n'importe quelle chaîne d'information pour n'entendre parler que de ça ou presque. C'est à la limite du supportable. Alors, qui était Elisabeth II en dehors de la reine bien-aimée de tout un peuple ? De manière non exhaustive, bien sûr. Nous allons discuter et parler de ses faits d'armes en tant que reine d'Angleterre et donc en tant que dirigeante du pays, puisqu'on rappelle quand même qu'une reine ou un roi en Angleterre a par exemple le pouvoir de dissoudre le Parlement, même si il est vrai qu'ils ne l'ont pas fait très régulièrement ces derniers temps. Alors tout commence en 1952 au Kenya. Elisabeth Borne et son mari Philippe sont en escale là-bas, dans leur résidence royale de Sagana Lodge. Ah oui, le Kenya en 1952, c'est une colonie britannique depuis 1895. À ce moment-là, la Grande-Bretagne est toujours la première puissance coloniale mondiale, devant la France, c'est dire. Au Kenya, comme dans la plupart des colonies britanniques, c'est la ségrégation raciale la plus violente qui sévit. Et pourtant, des révoltes émergent. Au Kenya, donc, toujours, c'est celle des Mau Mau qui fait rage, un peuple opprimé par l'Empire britannique. Et en 1952, au moment où Elisabeth est au Kenya et où elle apprend qu'elle sera la future reine d'Angleterre suite à la mort de son père George VI, a lieu l'un des plus gros massacres perpétrés par l'armée coloniale contre les Mau Mau, qui fait 100 000 morts parmi les civils et les rebelles, pendant que 300 000 autres sont enfermés dans des camps de rééducation et de travail. Ce massacre, on peut le considérer comme étant le premier acte de la toute nouvelle reine du royaume d'Angleterre et de son empire colonial. Tout au long de son règne, elle cherchera à freiner la décolonisation et à maintenir la mainmise de l'Empire britannique sur les colonies à travers le monde. Et ce, même après les décolonisations, via notamment le fameux Commonwealth, véritable outil néocolonial britannique. On n'oublie pas non plus la répression violente de l'armée et de la police britannique en Irlande du Nord, où les emprisonnements des indépendantistes ont été massifs et les morts nombreux, comme ce fameux Bloody Sunday du 30 janvier 1972 à Londonderry, où 14 manifestants et manifestantes pacifistes ont été tués par balles. Aujourd'hui encore, la discrimination contre la minorité catholique d'Irlande du Nord est une bien triste réalité. Mais Elisabeth II, c'est aussi un soutien inconditionnel à l'impérialisme américain. Pour ne citer que deux exemples, en 1991, elle a adoubé le colonel Norman Schwarzkopf Jr. après l'intervention militaire des deux pays en Irak pendant la guerre du Golfe, laissant ensuite les Kurdes se faire massacrer par le régime de Saddam Hussein. En 2003 également, elle reçoit en grande pompe au Palais Royal George W. Bush et Colin Powell en plein assaut militaire américain, alors que ces deux derniers ont menti au monde entier en inventant des armes de destruction massive en Irak pour justifier une intervention militaire qui n'avait au final d'autres objectifs que de s'accaparer les puits de pétrole. Elisabeth II a également été un puissant soutien à l'État d'Israël dans sa politique de colonisation des territoires palestiniens. En témoigne par exemple sa décoration de l'ordre de Saint-Michel et de Saint-Georges à l'ancien Premier ministre israélien Shimon Peres en 2008. Mais Elisabeth II, c'est aussi, en vrac et pour terminer, un pilier du soutien de l'offensive bourgeoise néolibérale violente des années 70-80, avec son lot de répression du mouvement ouvrier. Un gouffre financier pour l'État britannique, puisqu'une partie non négligeable des activités de représentation publique de la monarchie sont financées par des subventions publiques. En moyenne, par an, c'est l'équivalent de 40 à 50 millions d'euros pour l'État britannique. C'est également une fortune personnelle établie pour Elisabeth II à 431 millions d'euros, notamment grâce à l'exploitation de plusieurs dizaines de milliers d'hectares dépendant des différents duchés, notamment celui de Lancaster. Les joyaux de la couronne sont eux estimés à plus de 3 milliards de livres, soit plus de 3,4 milliards d'euros. Tout ça, bien sûr, sans parler des multiples palais de la famille royale et de tous les très très nombreux privilèges encore en vigueur. Bref, et pour finir, Elisabeth II aura été durant son règne, tout son long règne de 1952 à 2022, à la tête d'une des institutions les plus réactionnaires et riches du pays, la monarchie. Les syndicats traîtres britanniques ont vraiment bien fait, oui bien fait, jeudi dernier d'annoncer la suspension de toutes les grèves en cours en l'honneur de cette bonne vieille Elisabeth II. Et on enchaîne avec une petite musique qui s'appelle Batallones Femeninos en Ceros Decibeles. Ça, c'est le nom du groupe. Donc, c'est un collectif féministe. Et ça, le titre, c'est Así era ellas.
Eran ellas desde Rompeviento TV. Yeah.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Des radios. Et vous écoutez le Canu Info du lundi. Il est 19h21. On passe tout de suite à l'actu nationale.
Oui, avec un sujet sur l'assurance chômage et la destruction des droits sociaux. Le gouvernement macroniste a donné mercredi dernier en Conseil des ministres le coup d'envoi d'une nouvelle réforme de l'assurance chômage, dont l'objectif est ouvertement de réduire les droits sociaux des chômeurs et des chômeuses. Le gouvernement prétend répondre aux soi-disant difficultés de recrutement en faisant varier les conditions d'indemnisation selon la conjoncture. La complainte patronale actuelle est ainsi reprise éhontément dans la bouche du gouvernement. Dans ce projet, il est question d'une modulation de l'assurance chômage afin qu'elle soit, selon les mots de M. Emmanuel Macron, plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. L'objectif du gouvernement est d'aboutir à des critères, le taux de chômage par exemple, à des critères dont l'évolution à la hausse ou à la baisse pourrait déterminer le nombre de mois de travail requis pour accéder à l'indemnisation. Et pour rappel, il faut actuellement 6 mois de travail pour ouvrir des droits. Le but réel de cette réforme, et c'est un but qui n'est ignoré par personne, le but réel étant de rogner davantage les droits sociaux des travailleuses et des travailleurs. Cette réforme est inspirée par M. Marc Ferracci, député Renaissance, donc ex-La République En Marche, et économiste, dont le talent indiscutable est d'arriver à rendre les plus pauvres, à rendre les pauvres encore plus pauvres. C'est d'ailleurs le même triste personnage qui avait présidé à l'inspiration de la réforme de l'assurance chômage en 2019, la précédente réforme sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, 3 paramètres sont sur la sellette et peuvent potentiellement bouger. Le montant de l'indemnisation, les critères d'éligibilité et la durée d'indemnisation. Le ministre du Travail, M. Olivier Dussopt, a écarté la réduction du montant de l'allocation mensuelle. En effet, la coupe sèche dans le montant des indemnisations ayant été violemment imposée dans la précédente réforme, renchérir sur la même rengaine eût été un brin grossier. C'est donc probablement plus pour ouvrir des droits au chômage ou sur la durée de ces droits que le gouvernement promet une nouvelle fois de traîner dans la boue les privés d'emploi. Pourtant, cette réforme ou cette idée de réforme est unanimement rejetée par tous les syndicats. Pour des raisons logiques d'une part, parce que frapper sur les privés d'emploi n'a jamais réduit le chômage, mais aussi pour des raisons politiques. Parce que, avec cette proposition, le gouvernement pipe une nouvelle fois les dés du jeu de négociation entre le patronat et les syndicats. En effet, le régime indemnitaire de l'assurance chômage est censé être co-géré par les organisations patronales et syndicales. Or, dans ce cas de figure, l'État est censé rester en dehors du jeu. Mais pourtant jaloux, le gouvernement macroniste cherche à reprendre la main sur ce régime et surtout sur sa caisse, en faisant systématiquement capoter les négociations. À tel point que, même s'il est favorable à la réforme, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a déjà jugé qu'ouvrir une négociation ne servira à rien, vu qu'elle n'aboutira pas faute de diagnostic partagé avec les syndicats. Cette réforme est d'autant plus néfaste que, selon les données de l'UNEDIC, on dénombrait 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi en décembre 2021, mais seulement 40% d'entre elles étaient indemnisées. Il faut rappeler que dans la France d'Emmanuel Macron, être chômeuse ou chômeur, c'est loin d'être l'opulence dans laquelle vit la classe qui nous gouverne. Le montant net moyen d'indemnisation est de 960 euros, soit un niveau bien inférieur au seuil de pauvreté. Enfin, cette nouvelle réforme de l'assurance chômage ne tombe pas du ciel. C'est la prémisse à d'autres coups bas. À plus long terme, cette réforme est en lien avec la réforme du RSA, avec moins de droits et plus d'obligations d'emploi, avec la création de France Travail, une sorte d'agence du service du travail obligatoire à la sauce macroniste, pour accroître la pauvreté chez les classes populaires et discipliner les classes laborieuses. Ainsi, pressé de continuer à humilier les chômeuses et les chômeurs, le gouvernement souhaite engager sa réforme avant la fin de l'année. Il est pourtant loin d'avoir déjà gagné, et il pourrait trouver face à lui un mouvement social déterminé à ne pas se laisser écraser.
Et on l'espère, on passe tout de suite à la répression contre les militants de l'éducation nationale encore.
Et oui, malgré ou à cause de la rentrée chaotique, l'éducation nationale continue à réprimer la contestation parmi son personnel. C'est le cas de Kaïté Rada, prof de maths au lycée Joliot-Curie de Nanterre depuis 2006 et militant syndical à Sud Éducation 92. Il est aussi co-secrétaire départemental de Sud Éduc 92. Et il a été suspendu par le rectorat de Versailles juste avant la rentrée, pour 4 mois, sans même que la direction de son établissement n'en soit informée. Cette suspension fait suite à une année 2021-2022 difficile dans son établissement, avec des incidents et des tensions entre les personnels et l'administration, des tensions entre les personnels et plusieurs mouvements de grève. En février avait été organisé ce que l'administration appelle une inspection à 360 degrés, c'est-à-dire des inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent dans l'établissement pour auditionner tout le monde. Le syndicat Sud-Éduc avait informé ses adhérents que ce genre d'inspection peut déboucher sur des sanctions disciplinaires. Kaïté Rada et plusieurs de ses collègues engagés dans l'établissement ont donc pris la peine de consulter leur dossier administratif pour savoir si l'administration avait des choses à leur reprocher. Au 30 juin 2022, son dossier était absolument vide. De plus, il n'était pas là donc lors de cette inspection à 360 degrés puisqu'il était en grève. Et au retour des vacances d'été, Début septembre, il reçoit pourtant dans sa boîte aux lettres un arrêté de suspension de 4 mois avec conservation de son traitement en intégralité. On pourrait croire que c'est sympa pour lui, mais en fait, c'est aussi une manière pour l'administration de l'éloigner de son bahut sans que ça puisse être considéré comme une sanction disciplinaire, ce qui l'empêche d'avoir les garanties de défense prévues pour une procédure disciplinaire comme le contradictoire. Il se retrouve donc suspendu pour 4 mois sans même avoir le motif de cette suspension. Évidemment, avec la rentrée explosive qui s'annonce dans l'éducation nationale, le recrutement à l'appel de contractuels formés à la va-vite pour boucher tant bien que mal les trous béants qui ont été créés par le manque de moyens et de reconnaissance du métier organisé de manière structurelle depuis des années. Le motif est assez clair pour sa suspension, de la pure et simple répression syndicale pour faire taire la contestation et espérer étouffer les mouvements sociaux passés et à venir dans l'éducation nationale. Manque de bol, à Joliot-Curie, ça a provoqué exactement l'inverse, à savoir le vote de la grève le jour même où ses collègues ont appris sa suspension, qui a été reconduite le lendemain pour demander l'annulation de sa suspension et pour en exiger les motifs. Après plusieurs jours de grève la semaine dernière, un nouveau rassemblement est appelé devant l'inspection, devant le rectorat du 92, demain, mardi 13 septembre à 10h, en soutien donc à Kai Terada et à tous les réprimés syndicaux de l'éducation nationale.
Visiblement, c'est plus facile de sanctionner des profs que des policiers, puisque rien de nouveau sous le soleil de cette rentrée, la police continue de tuer.
Oui, deux nouveaux crimes policiers à Rennes et à Nice. Deux situations de contrôle qui se terminent par un mort suite à un tir policier. Deux levées de boucliers immédiates et en cœur de la police et des médias chiens de garde. Les policiers ont agi en état de légitime défense suite à un refus d'obtempérer. L'histoire se répète, malheureusement. Alors à Rennes, c'est dans la nuit du mardi à mercredi dernier qu'un contrôle tourne au drame, selon la version policière, et nous n'aurons que celle-là, donc nous la croyons relativement peu, à 1h du matin, sur la bretelle de la rocade rennaise allant vers Lorient. Des flics de la BRI tentent d'interpeller un véhicule qui leur aurait volontairement foncé dessus. Ils tirent, et puisque ils visent et ils tirent toujours aussi bien, ils atteignent la passagère du véhicule de 22 ans qui meurt sur le coup. Depuis, c'est le déchaînement médiatique, le crime absolu, car figurez-vous, il y avait de la cocaïne dans le véhicule. Ça justifie la mort, probablement. Affaire à suivre pour cette histoire rennaise. En tout cas, on imagine bien que les policiers n'auront aucune poursuite. En ce qui concerne Nice, le lendemain de du meurtre rennais, a lieu une véritable exécution. On peut parler d'exécution car pas de bol pour les flics tueurs. Il y a une vidéo et sur cette vidéo, il n'y a aucune ambiguïté. On y voit un véhicule à l'arrêt, bloqué par une voiture de police. Un policier braque le conducteur sur le côté droit, sur le côté gauche du véhicule. Le véhicule commence à reculer doucement. Il n'y a personne derrière, aucun danger donc. Et pourtant, le policier tire en direction du conducteur à 1 mètre de lui. Un tir destiné à tuer. Le conducteur meurt peu après. Immédiatement, les syndicats de police et les médias milliardaires déversent leur même et unique version. Les policiers sont blessés, les policiers sont choqués. Ils ont agi dans un état de légitime défense, bla bla bla. Sauf que pas de bol, la scène a été filmée et tout est faux. Tout est un énorme mytho destiné à protéger la police. C'est la dixième personne tuée par balle par la police française depuis le mois de mars. À chaque fois, le même scénario et les mêmes mensonges. À chaque fois, la même impunité. D'ailleurs, à quand la fin de cette impunité policière ?
Et avant de passer à l'actu locale, on va écouter un petit son.
Un petit son de Soul Jazz Orchestra. Il n'y a pas de parole, mais je vous le dis, c'est contre le capital. vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est toujours le Canu Info du lundi 12 septembre et vous venez d'écouter une partie du long morceau de Soul Jazz Orchestra qui s'appelle Capital et on enchaîne tout de suite avec...
Local.
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 Et un premier sujet sur, sur la guillotière. Mais que s'est-il passé dernièrement à la guillotière ?
Alors oui, c'est pas un scoop, hein, mais depuis plusieurs mois, la place Dupont est devenue l'épicentre d'un délire médiatico-politique visant à justifier l'arsenal de mesures sécuritaires, antisociales et racistes du gouvernement. Délire qui ferait presque passer Grégory Doucet pour un gauchiste, c'est dire. Alors revenons sur ce feuilleton estival, hein, écrit et réalisé par Gérald Darmanin et diffusé sur l'ensemble des médias de merde. Fin juillet donc, des policiers avaient été pris à partie par des habitants lors d'une interpellation violente. Ni une ni deux, notre cher ministre de l'Intérieur se jette sur le fait divers pour en faire une affaire. Un homme sans papier est arrêté, jeté en pâture au journaleux, puis placé en CRA. Darmanin s'insurge, demande son expulsion dans un habile amalgame entre délinquance et situation administrative. Coucou l'électorat d'extrême droite, Darmanin vous l'a bien dit, Marine Le Pen est trop molle pour lui. Finalement, le coupable de rien sera bien vite disculpé dans cette affaire, mais qu'importe pour la préfecture. Quel parfait timing par contre pour Gérald Darmanin pour vendre sa future loi immigration qui prévoit entre autres le conditionnement d'un titre de séjour à, je cite, l'obtention d'un certificat prouvant la maîtrise du français et l'acceptation des valeurs de la République, ou encore la diminution des recours possibles et surtout leur délai pour les étrangers. Il sera encore plus compliqué de faire valoir ses droits pour celles et ceux qui en ont déjà peu. Le projet de loi prévoit également de renforcer la double peine en systématisant l'expulsion des personnes étrangères condamnées. Gérald Darmanin, quant à lui, pourra continuer de faire sa propagande raciste alors qu'il est lui-même visé par 2 plaintes pour viol et abus de faiblesse. C'est en toute impunité qu'il peut continuer à utiliser sa position de pouvoir pour obtenir toutes sortes de faveurs non consenties tout en s'époumonant sur les plateaux télé pour expulser ceux qui n'ont pas les bons papiers. Après donc cet épisode estival et quelques amabilités échangées sur Twitter avec Grégory Doucet, notre cher Gérald avait promis son retour pour début décembre. Septembre, pas du tout. Comme les habitants du quartier goûtent assez peu à ce genre de démonstration médiatique, coucou Jordan Bardella et Jean-Marc Morandini, différents collectifs ont donc appelé à un rassemblement pour le vendredi. Mardi soir, une petite équipe part coller des affiches pour ce rassemblement, contre l'avenue donc de Darmanin. C'était sans compter une opération exceptionnelle de démonstration de force avec monsieur le préfet en personne. Une équipe de la BAC passe par là, voit les 3 camarades en plein collage, s'offusque d'une affiche « La police tue » et décide d'emmener tout ce petit monde en garde à vue pour 21h. Sauf que coller des affiches n'est pas un délit. Alors ça se creuse les ménages, hein, du côté du parquet. Merde Jean-Michel, qu'est-ce qu'on met comme motif ? Bon, mais outrage ! Merde Robert, je viens de voir que c'était pas un motif valable. Le conseiller d'État nous a déjà dit que c'était mort. Bon, bah colle-y un jour public, hein, on verra bien si ça passe. Pendant ce temps-là, au Comico, un flic bien proche de Valeurs Actuelles appelle son copain Jean-Rémy de la rédac pour filer toutes les infos sur ses colleurs délinquants. Alors ça pourrait être drôle, hein, mais le résultat c'est quand même 21 heures de garde à vue pour les camarades, pour écoper au pire d'une amende, et des infos personnelles bien foireuses transmises à la presse d'extrême droite, histoire de bien faire chier les 3 colleurs. Pendant ce temps-là, on l'a dit tout à l'heure, les flics tuaient 2 personnes à Nice et Rennes. Et du côté de chez nous, les pointeurs et réac pouvaient se pavaner en toute liberté devant les caméras de nos quartiers. Darmanin est en effet bienvenu ce vendredi. Au programme de son petit rodéo réac, rencontre des commerçants autour de la place du Pont, puis dans les salons de l'hôtel de ville avec Grégory Doucet. Il a été accueilli par un rassemblement festif et déterminé qui l'aura au moins empêché d'arriver jusqu'au 7e arrondissement. Bref, c'est bien la rentrée de la récupération politique et c'en est probablement pas fini de l'occupation policière quasi permanente de la place du Pont, comme des contrôles aux faciès et des rafles de sans-papiers. En revanche, toujours rien en programme pour lutter contre la misère et l'exploitation. À nous donc de reprendre la rue.
Et on continue au local avec un nouveau procès à venir pour un camarade antifasciste.
Oui, demain à partir de 13h30 aura lieu un procès où un camarade antifasciste court encore une fois le risque de subir la répression judiciaire pour s'être défendu face à des néo-nazis. Il s'agit d'une vieille affaire qui date d'avril 2018 où une association promouvant la scène hardcore sur Lyon organisait un concert dans le bar Rock'n'It, qui est quai Arloin dans le 9e arrondissement. L'organisation de l'événement, indépendante du bar, voulait montrer que la scène hardcore partage des valeurs opposées à celles de l'extrême droite, et d'ailleurs un petit logo no fascism, le signalait sur l'affiche du concert. Ce choix assumé leur avait d'ailleurs déjà créé des soucis avec des militants fascistes de Lyon qui étaient venus s'attaquer à une partie du public lors d'un concert organisé quelques semaines auparavant dans le même bar. Bar qui, au passage, est situé à quelques centaines de mètres du local néo-nazi Le Pavillon Noir, bar du groupe fasciste Bastion Social, qui s'appelait avant le GUD, groupe Union Défense. Donc lors de ce concert d'avril 2018, qui était ouvertement antiraciste, antisexiste et antifasciste, 5 membres du groupe antifasciste Lyon et environ sont venus passer la soirée, passer un bon moment, tout en soutenant cette initiative ouvertement antiraciste. À un moment de la soirée, ils ont repéré plusieurs fachos dans la salle et sont allés en avertir l'organisation, qui a elle-même informé l'agent de sécurité que ces personnes n'avaient rien à faire dans le concert et représentaient un risque de désordre public. Après les avoir mis dehors, l'agent de sécurité et le patron les ont fait entrer de nouveau en disant finalement que c'était des clients comme les autres et que le bar était neutre sur ce point de vue. Vive la neutralité face aux nazis du Rock'n'It. Les membres du GAL ont donc fait savoir leur indignation et leur désir de quitter les lieux au bar et à l'orga, en considérant bien sûr que c'était impossible de faire la fête à côté de personnes qui passent leur temps à agresser des militants, font des ratonnades de personnes de couleur, vandalisent des lieux de lutte comme la permanence de la CNT, la librairie La Plume Noire, la permanence du PCF, des pentes de la Croix-Rousse, etc. Dès leur sortie du bar, une vingtaine de personnes les ont attaquées de manière coordonnée et de front, avec entre autres des barres, des ceintures, des bombes lacrymogènes, des tasers, pendant que les 5 fachos restés à l'intérieur les attaquaient de dos. Un raid organisé par le Bastion Social, dont Steven Bissuel et Tristan Conchon. Lors de ce déferlement de violence, le petit groupe antifasciste a essayé tant bien que mal de se défendre. Et puis la police est arrivée et elle s'est empressée d'embarquer un membre du GAL qui a passé 2 jours en garde à vue, où il a subi au passage un tabassage en règle, emmené par les pompiers avec le visage tuméfié et le nez cassé. Alors qu'il avait été embarqué dans un état parfaitement sain, enfin quasiment sain, en tout cas sans nez cassé, avant de passer par les locaux de la police, ça c'est sûr.
Ah oui.
8 fascistes ont été arrêtés ce soir-là, dont Bissuel et Conchon. 2 d'entre eux sont sortis du tribunal avec le statut de témoin assisté, alors qu'ils avaient été placés en garde à vue pour violence en réunion. A noter aussi qu'aucun témoignage de personnes présentes ce soir-là n'a été retenu. Sans parler des vidéos qui sont censées montrer les fachos se rassembler devant leur local et se diriger en groupe vers le Rock'n'It et qui n'ont pas non plus été retenus. Le camarade du groupe antifasciste Lyon et environ, quant à lui, est mis en examen pour violence avec arme par destination pour s'être défendu, outrage et rébellion, puisque la police veut pouvoir justifier son écadé et dégradation. Donc, face à ce nouvel acharnement judiciaire, on le redit, se défendre face aux agissements des fascistes n'est pas un crime. Et on vous donne rendez-vous à toutes et tous le mardi 13 septembre 2022, donc demain à partir de 13h30, devant le tribunal correctionnel de Lyon, pour un rassemblement massif en soutien à ce camarade et contre les violences fascistes et policières.
Et puisqu'on en est à donner des rendez-vous militants, il y en a un qui commence donc dès demain à 13h30. Est-ce qu'il y en a d'autres cette semaine ? Est-ce qu'on a un agenda ?
Et on a tout à fait un agenda.
C'était bien prévu, ça.
Qui était bien préparé, d'ailleurs. Ça fait des semaines qu'on planche dessus. Donc demain à 13h30, et ben évidemment ce rassemblement de soutien au tribunal rue Servian. Donc c'est à partir de 13h30, à 19h, les clameurs qui organisent leur causerie autour de la gratuité des transports en commun. Mercredi, il y a un rassemblement à l'appel de l'Intersquat à partir de 9h devant la Métropole contre l'expulsion du squat Lafayette. Le squat Lafayette, c'est un squat qui avait été ouvert à la suite de l'occupation de l'Amphi-Z et pour lequel la Métropole avait promis le relogement des habitants et bien entendu, ses promesses n'ont pas été tenues, mais l'expulsion, elle, approche à grands pas. Il y a l'ECG qui reprend de l'activité avec notamment la permanence de santé qui aura lieu donc demain, mercredi. Alors, ça sera tous les mercredis désormais, si j'ai bien compris, de 17h à 19h à l'espace communal de la Guillotière. C'est même du côté de l'annexe, si je ne me trompe pas, au 27 rue Salomon Rénac. Samedi à 15h à la Griffe, il y aura une rencontre, débat autour d'un livre de Romain Bonnel et François Cerutti, Une histoire sociale et politique de la conquête de l'Algérie par la France. C'est donc à 15h à la Griffe, rue Sébastien Griffe, un numéro que j'ignore. 5 rue Sébastien Griffe. 5 rue Sébastien Griffe. Le même jour à 17h, c'est le pot de rentrée de la Plume Noire. Donc la Plume Noire qui se situe 8 rue Diderot dans les pentes de la Croix-Rousse. Et ensuite, on se retrouve lundi prochain pour le Canu Info.
Et qu'est-ce que se passe-t-il lundi prochain ? Ce serait pas un Canu Info spécial ?
Ah, mais tout à fait, parfaitement. Alors,
faudrait peut-être l'annoncer.
Et lundi prochain aura lieu le premier Canu Info du lundi en mixité choisie, sans Maxi.
Tout à fait.
Voilà.
Donc pas la semaine prochaine.
Pour moi, pas la semaine prochaine, à dans 15 jours. Et puis on vous laisse avec les bonnes continues et surtout on se retrouve dans la rue comme d'hab. Allez, ciao. Tumbling down, don't give up. The truth will set you free. Keep the faith. When all around is crumbling, don't give up. The truth will set you free. Keep the faith. When all comes tumbling down, don't give up. The truth will set you free. Free, 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 free.
serpentaient, les ruelles précaires, les marches titubantes sous tes pieds. Le passé n'était que l'arrière, front d'un champ de bataille dévasté. Oui, tout était dans le sommaire, un livre qui n'avait jamais été. Et dans le mouvement d'une danse ternaire que personne n'avait osé danser. T'avais vendu des pluies acides, un soir de joie sur eBay. Aux épaques de ses pensées lucides, un jour par ici, elle a crié. À quoi ça rime et à quoi bon? Qui était comme hiver sous la plage. Les bonnes intentions échouent, les pavés de l'enfer. Pour aussi près qu'elles t'appartiennent, tu n'en avais jamais douté. Si loin que tu te souviennes, elles furent toujours là à tes côtés. T'avais couru le marathon ivre, après trois jours à te purger. Tout essayé même de survivre, la face prise dans du béton armé. Espionner ces flacons de givre et leur dire ensuite de se taire. Et puis aussi tu avais fait suivre le courrier de ton ver de terre. À quoi ça rime et à quoi bon? Tu sais qu'était comme hiver sous la plage. Les bonnes intentions s'échouent, les palais de l'enfer. Mais ça n'avait pas changé grand chose. Rien de plus, rien de moins, tout juste ces échymoses, des moisissures sur les coussins. Alors t'es reparti sous un tonnerre d'applaudissements manchots vexés. T'as décidé de lâcher l'affaire pour finir de tout laisser filer. Mais ce n'était pas pour te déplaire ou encore moins te résigner. C'était pour ne plus que tu espères sur les chemins des rêves aveuglés. À quoi ça rime et à quoi bon? Qui était comme hiver sous la plage. Les bonnes intentions s'échouent, les palais de l'enfer. À quoi ça rime et à quoi bon? Tu sais qui était comme hiver sous la plage. Tes bonnes intentions, ils échouent, les palais de l'enfer.
Radio Canus en 2.2, vous venez d'entendre à l'instant Zérocratie avec les pavés de l'enfer. Auparavant, le titre de Orchestre Tout-Puissant, Marcel Duchamp et Hermut. Et Gary Clayle avec le fameux Keep the Faith, Gardez la foi sur Radio Canus en 2.2.
Joli pipeau.
pipeau. Mon papa est très fier de moi. Quand tout le monde s'écrie bravo. Mais moi j'aime mieux les chansons, je les chanterai toute la journée et je danse et je pense. Vive les chansons. Si un jour j'avais deviné les ennuis que donne un pipeau à papa, j'aurais apporté un bulletin rempli de jurons.
Vous êtes bien sûr Radio Canu 102.2, la plus intergénérationnelle des radios. À l'instant, c'était Anne Sylvestre qui nous interprétait en 1962 Mouche Mouchelette. Juste avant, c'était le jeune chanteur Kiki qui chantait Vive les chansons yéyé en 1965. Et encore avant, mais en 2019 cette fois,